Aujourd'hui, c'est le fondateur de l'église La Porte Ouverte de Mulhouse qui nous livre quelques épisodes de sa vie. Vous verrez, il est très agréable à écouter parce que sous la surface, apparemment toute simple, les racines sont profondes. En l'écoutant, de nombreuses personnes se surprennent à réfléchir. Nous écoutons donc Jean Peter Schmitt.
Je vais commencer de ma jeunesse. Mon père, malade du cœur, ma mère avait plusieurs attaques cérébrales, mon frère s'occupait de la ferme et moi j'étais là pour attraper les lapins garennes qui venaient tout nous manger. Ça, c'était, et c'était mon ministère. Ça ne me faisait rien de sortir la nuit à 2, 3, 4 heures pour aller et pour attraper mes lapins. Et un beau jour, mon frère qui s'occupe de la ferme, un samedi, nous avons encore travaillé ensemble à sortir des pommes de terre et le samedi suivant était son enterrement. Et alors, est tombé tout sur mes épaules. Et tout a changé. Et alors, naturellement, là, j'ai appris à me débrouiller. Comme on dit, j'ai appris à vraiment entreprendre. Papa était au lit et disait, aujourd'hui, tu fais ça avec les ouvriers, tu fais ça. Et voilà. Et alors, le temps a passé. Et ça allait bien.
Donc vous êtes devenu, Jean, vous êtes devenu du jour au lendemain le directeur de la ferme, quoi.
Automatiquement, il fallait, il n'y avait pas de choix. Pas le choix.
Quel âge vous aviez à ce moment-là ?
14 ans.
Est-ce que ça ne vous a pas un peu stressé paniquer tout d'un coup, une telle responsabilité?
Ah ben si, surtout que mon frère s'occupait bien de la ferme. Et naturellement, ça m'a paniqué, ça m'a... Mais déjà là, il faut que je dise que Dieu était là. Autrement, j'aurais pas pu vraiment entreprendre comme mon papa me le disait.
Et vous-même, vous comptiez déjà sur Dieu à ce moment-là ?
À ce moment-là, j'avais un saint respect de Dieu.
Et vous lui parliez, vous priez dans les situations difficiles ou...
Oui, mais tout à fait différent que... Je savais, à travers mon père, qui était un homme de Dieu, qui était respecté Dieu, je savais que Dieu exauce, mais... Je ne prenais jamais très au sérieux. Hein. Je lisais la Bible, mais je pensais...
C'était un peu lointain, peut-être.
Un peu lointain.
Et comment le reste de la famille, votre entourage, a accepté cette responsabilisation si jeune?
Ah ben, automatiquement, il n'y avait pas d'autre issue. Ma sœur devait s'occuper de la cuisine de la ferme. Et des bestiaux, soit les porcs et tout cela. Et moi, je devais m'occuper du dehors, sur les champs et surtout les vaches et tout ce qui s'en suivait.
Vous avez été respecté, quoi.
Oui, oui. Et puis, on a vraiment eu tout de suite ce respect que tout cela... Et sur notre dos, il faut le faire.
D'accord. Et finalement, vous gardez de cette période un bon souvenir. Vous aimiez ce temps?
Un très bon souvenir. Hein. Bien que, à partir de là, il fallait se lever le matin à
oui.
5 heures.
Oui, ça change.
Oui. Et on allait au lit à 10 heures. C'était vraiment... il fallait le faire.
OK. On en vient directement... À l'époque de la guerre et à votre ordre de réquisition pour le travail en Allemagne.
Et alors, tout d'un coup, un nouvel appel qui vient. Et dans cet appel, en bas, il est écrit « Celui qui n'obéit pas à cet appel, fusillé sur place sans tribunal. » J'avais 4 kilomètres à faire, 2 kilomètres de forêt. Et dans la forêt, je m'ai arrêté et j'ai dit « Seigneur, si je vais à droite, je vais revivre ce que j'ai vécu. Si je vais à gauche, je suis un déserteur. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et alors, sans question, j'ai continué. Et quand j'arrive sur la route, j'ai pris la gauche. Déserteur. Je suis arrivé chez un que j'appelais oncle, que je connaissais bien. Et alors, j'ai dit, oncle, tu vois, je suis venu et hein, j'aurais dû partir en Allemagne. Et maintenant, je suis venu et puis je vais, tu sais bien, je connais bien le tas de foin et tout, je vais me mettre là-haut. Alors il me répond, quoi Jean, déserteur, prends ton vélo et pars. Je veux pas de déserteur sous mon toit. Et pourtant, il était prédicateur de l'évangile. J'ai dit, oncle, mais laisse-moi jusqu'à la nuit. Jean, tu pars. Il faut se mettre à ma place. Hein. Pour moi, c'était la vie et la mort. Et la troisième fois qu'il m'a dit, je ne veux pas que tu restes, tu pars, prends ton vélo et pars. Comment ? Et alors, j'ai pris ma bicyclette, mon vélo, en tremblant, et je suis parti pensant maintenant où tu vas, où tu vas. Et au bout d'un petit trajet, la police sur la route, des deux côtés, la police militaire, et quand je les ai vus, c'était trop tard, j'étais à quelques 50 mètres, j'ai regardé, Seigneur, Seigneur, et j'ai continué. Et ils m'ont laissé passer.
Vous pensez qu'un chrétien ne devrait jamais porter les armes ?
Il y a une chose, pour bien comprendre ce que j'ai vécu, il faut se mettre dans le contexte. D'abord, j'ai été enrôlé de force dans le régiment SS. Dieu m'en a sorti puisque j'avais prononcé « je ne tuerai jamais ». Par des souffrances au mollet, j'étais inapte pour les troupes SS. Et on m'a pris pour faire des tranchées. Et là, j'ai reçu l'appel pour le Arbeitsdienst. Et c'est le bureau agricole qui m'a fait un tampon comme soutien de famille. Alors j'avais 3 mois. Et le quatrième appel, de nouveau un tampon, et j'avais de nouveau 3 mois. Et alors est arrivé le cinquième appel directement à la Wehrmacht. C'est pour cela qu'il y avait dessous, si nous n'obéissons pas à cet appel, fusillé sur place. Alors, naturellement, là, chacun est libre. Mais mon père m'avait dit avant de partir, sache que ton grand-père a dit, il ne tuera jamais. Ils l'ont tout de suite expédié à la maison. Moi, ton père a dit, je ne tuerai jamais. Ils m'ont envoyé au front et en Pologne, ils nous ont révisé et ils ont trouvé que j'avais une cicatrice. Et j'étais 4 ans en Pologne comme jardinier du bataillon. Mmh. Mon fils, tu vois, Nous devons respecter les commandes de Dieu.
OK. Et comment vous avez compris, reçu ce refus d'hospitalité de votre oncle? Là, ça a dû être très, très difficile après, non? Vous lui en avez voulu?
Cela, c'était bouleversant. C'était comme presque ma mort. Parce que c'était déjà la deuxième place. J'étais chez une chrétienne qui me voulait du bien et tout, mais j'avais le temps long. Et je suis parti pour, à la ferme, aider en cachette et de me renvoyer de cette façon.
Vous avez pu lui pardonner? Vous l'avez revu après?
C'est cela que le plus grand miracle de ma vie, je n'ai jamais eu de haine contre lui. Après, quand j'étais dans le plein évangile, nous avons fait des baptêmes chez lui à la ferme.
Merci. Eh bien, nous sautons des années, nous arrivons maintenant au temps où vous êtes déjà marié.
Et alors, un beau jour, 7 ans après, voilà ma femme qui commence à avoir des enflures, qui fait des crises de rhumatisme articulaire à tel point que le cœur n'a plus marché. Et alors elle était longtemps à l'hôpital, j'avais 2 petites filles, et c'était vraiment triste. Les médecins m'ont dit, prenez votre dame à la maison, comme ça elle mourira dans le cadre, parce que nous ne pouvons plus aider, c'est fini. Et un jour, mon beau-frère est là, il dit, écoute, tu veux aller à l'évangélisation là, mais c'est en allemand et j'y comprends rien. Il est du pays Gex. J'ai vu sur le journal, il y a une tente des gitans sur le 14 juillet, place du 14 juillet. On pourrait y aller. Ah, j'ai dit oui, ça serait quelque chose d'autre. Alors, il y avait de la musique, il y avait des femmes qui donnaient à boire. Et chez nous à l'église, ça. L'église, c'était un lieu saint. Alors, de vivre et de voir tout cet entourage, j'ai dit, écoutez, mes chers, nous, on part, hein, ça. Là-dedans, on ne reste pas. Et nous voilà sortis. Et un jeune homme est venu courir, a dit, mais pourquoi vous partez? Ah, j'ai dit, hein, je suis ménonite, je connais la parole de Dieu, mais ce qui se passe là-dedans, ah non. Il dit, et moi je vous dis, votre femme dans cet état est chrétien, eh bien allez-y, hein, parce que ça ne colle pas ensemble. Alors je pensais, effronter ce gars-là, hein. J'ai dit, mais si vous pouvez quelque chose, faites quelque chose pour elle. Alors il a dit, oui, mais vous partez. J'ai dit, écoutez, venez demain soir jusque chez nous. Ah ben, vous m'invitez, alors je viendrai demain soir. Et le soir après, il est venu. Il a prié pour il a imposé les mains à ma femme, mais rien que pour une nuit. Afin, parce que les nuits, elle ne dormait pas, elle faisait que Yomra. Se plaindre. Alors, cette nuit-là, elle me réveille, elle dit, Jean, moi, je suis heureux, je suis guéri, tu vois, oh, que c'est bien. Je dis, il a quand même raison, le jeune-là. Quand nous étions en train de déjeuner, tout heureux, tout d'un coup, elle fait, ah, je dis, que c'est bien. Toutes les souffrances sont revenues. La paralysie, une crise après l'autre, mais effroyable. Toute la journée, je n'ai pas pu partir, c'était incroyable. Quand ce jeune homme, sa femme est venue, Et j'y ai raconté. Et ma femme a entendu cela de la cuisine et elle a appelé, « Venez, venez, la nuit était bonne, c'est revenu ce matin. » Il a dit, « Mais écoute, vous y comprenez rien du tout. Si on prie pour une nuit, c'est une nuit. » Le Seigneur a donné la nuit et il a dit, « Puisque vous êtes chrétien, on va prier ensemble. » Et à partir de là, ma femme était guérie. Plus de crise depuis. Les enflures, en 2 jours, au lieu que c'était comme ça, mais alors pour moi, ça m'a bouleversé.
Ce jeune homme avait vraiment une foi extraordinaire, hein?
Il faut le dire qu'il avait une foi extraordinaire et que il était vraiment dirigé de Dieu, qu'il l'a mis en pratique.
Comment vous expliquez qu'il ait pu ordonner à la souffrance de partir seulement pour une nuit?
Parce que j'avais du mal à accepter, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront.
Et cette maladie n'est jamais revenue après?
Elle n'est jamais revenue. Il y a eu encore des attaques, mais alors tout a disparu.
Et dans ces réunions sous ce chapiteau, tout ça, il y avait aussi souvent beaucoup d'autres guérisons aussi extraordinaires du même type, non?
Nous étions peut-être une demi-heure sous ce chapiteau. Et ce que j'ai vu m'a tellement outré. Oui. Hein, des femmes qui donnent à boire à leur bébé, ça me dépassait.
Mais après, en discutant avec ce jeune homme par la suite, etc., est-ce que vous avez eu l'impression que le cas de la guérison de votre femme avait été quelque chose de très unique, ou est-ce que c'était quelque chose qui arrivait souvent comme ça?
Chez les gitans sous cette tente, ça arrivait plusieurs fois.
Et comment ces gens, de culture très simple comme ça, comment ont-ils acquis une telle puissance, quoi?
C'est l'obéissance de mettre la parole de Dieu en pratique.
Alors, vous avez commencé, on va regarder la sélection suivante, vous avez plus tard commencé un travail d'évangélisation vous-même parmi les... et puis à prier aussi pour les malades.
Alors, pour moi, j'ai vu ces âmes qui étaient venues, qui avaient soif. Hein, et naturellement, alors j'ai été encore chez mon père. Il a dit, quoi? Dans un bistrot? Tu vas prêcher l'évangile? Mais c'est jeter la perle au pourceau. Mais il faut jamais faire ça, mon fils. Ah, de nouveau. Mais quand même... Le Seigneur nous a accordé des miracles merveilleux. Un chef qui était chef dans l'usine chimique, qui était président de l'association dans les Vosges, hein, qui était mourant. Et cet homme était venu, on lui a imposé les mains et... Après, il a reçu une attaque, puis il n'avait plus que 3 de tension. Et on me l'a téléphoné. Vous voyez maintenant, on a fait, je crois, c'était la 3e ou 4e fois, semaine qu'on faisait. Il y a déjà le premier qui meurt. Et j'ai reçu cette conviction, comme s'il me disait « Non ». Il ne mourra pas. Et j'ai dit, non, plus besoin de continuer, moi je vais tout de suite, je vais aller voir. Et j'arrive à la boulangerie, la boulangère me fait, « Monsieur Peterschmidt, maintenant il y en a un qui meurt déjà. » Et pourtant il était assis devant, j'ai dit, « Non, il ne meurt pas. » Mais qui c'est qui l'a dit? J'ai dit, « Jésus me l'a dit, on a prié. » Ah ben alors je vais le dire, sa femme est à l'hôpital près de lui, il est mourant. Et puis alors j'étais tout seul dans la cuisine, si seulement t'aurais rien dit. Si seulement t'aurais fermé ta bouche. Et maintenant s'il meurt quand même, eh ben mon vieux. Sa tension est revenue, et alors, il y a plusieurs, il y a notre frère Jean-Pierre, il y a enfin, plusieurs qui ont été vraiment merveilleusement guéris.
Alors comme ça, vous réunissiez des gens dans un bistrot, c'est vrai que ça fait pas très, ça paraît pas très, très, pas très religieux, quoi.
Surtout que ça fumait, ça discutait là-dedans, mais Dieu agissait.
Alors les gens qui étaient venus spécialement pour la réunion écoutaient, mais ceux qui étaient juste là pour boire un coup entendaient aussi, quoi.
Ah, tout le monde entendait, vivait avec.
Tout le monde profitait comme ça.
Profitait.
Et vous avez eu, quand vous avez eu cette conviction que ce monsieur pour lequel vous aviez prié ne mourrait pas, vous avez eu la conviction. Et pourtant, c'est un peu étonnant. Après, vous dites que après vous aviez un peu des doutes quand même. Vous vous êtes dit mais et si maintenant il mourait, qu'est-ce qui se passerait quand même? Alors comment ça se fait? À la fois il y a une conviction et en même temps c'est pas forcément très sûr.
Quand nous étions à genoux pour demander l'intervention de Dieu, j'ai reçu la conviction. Je m'ai habillé, j'ai été, et alors sa femme a tout de suite demandé « Mais c'est qui vous a donné cette conviction ?» J'ai dit « Jésus ». Alors elle a dit « Ça, il faut tout de suite que j'aille le dire ». Et elle est partie. Et puis alors j'étais seul là dans cette cuisine, et alors il y a le doute qui est venu, il y a les luttes qui sont venues.
C'est la nature quoi, qui
revient. La nature, hein, on est toujours avec les deux pieds sur la terre.
Oui. Et cette conviction, Jean-Peter Schmitt, vous est venue comment? Est-ce que vous avez entendu une voix ou...
Non, là c'était quand nous étions à genoux, comme une présence de l'onction du Saint-Esprit qui me donnait la conviction, il guérira.
D'accord. Est-ce que vous pourriez dire combien de personnes ont pu être guéries par l'exercice de vos prières depuis que vous prêchez l'Évangile? Vous pourriez dire un nombre?
Non, je ne pourrais jamais dire un nombre, parce que s'ils viendraient tous, nous n'aurions jamais de la place.
Ok. On va aller voir la dernière sélection, quoi.
Et alors, une nuit, tout d'un coup, il me dit « Sors du lit et écris ». Et comme il faisait froid dans la chambre, je suis resté au lit, hein, mais je le regretterai toute ma vie. Hein. Et alors, il m'a donné la vision d'une grande salle, tout le monde dans la louange, et il a dit « C'est ça que je veux. C'est ça, que vous êtes un feu, une puissance, et que vraiment je puisse manifester ma grâce, et vous aurez des miracles et des prodiges. Je serai avec vous. Si tu m'obéis, c'est ça que je veux. Et je brûlerai tout ce qui ira contre vous. » Oh, merci Seigneur. Il m'a montré des chambres avec des tables, avec du café et des biscuits et des gens autour. Aujourd'hui, je sais ce que c'est nos cellules.
Cette vision que vous avez eue, quand vous dites vision, les gens vont se demander si c'est une vision que vous avez eue dans votre tête ou est-ce que c'est comme une espèce d'extase que vous avez vue devant vous?
Il faut bien comprendre la chose. Nous avions, à travers Dieu, créé quatre églises. Et d'un jour à l'autre, ces quatre églises se sont divisées. Et moi, j'ai demandé, Jésus, mais qu'est-ce que toi tu veux? Tu vois cette division, tu vois que je suis bouleversé, je ne sais plus quoi faire. Et un matin, dans les deux heures du matin, réveillé, comme une voix qui me dit « Lève-toi et va écrire ». Et comme il faisait froid, je suis resté au lit. Et alors, j'ai eu une vision d'une grande salle, tout le monde dans la louange, et Dieu qui me dit « Si tu me voyais, c'est ça que je veux ».
Je veux dire, cette vision, vous l'avez vue comme si vous regardiez un tableau, quoi.
Clairement.
C'est ça.
Comme si je regardais un tableau.
Et aujourd'hui, cette église dans laquelle vous servez à Mulhouse, est-ce qu'elle correspond, est-ce que c'est vraiment la réalisation de votre vision?
Ah oui, entièrement. Exactement.
Et comment vous avez choisi elle s'appelle la Porte Ouverte Chrétienne. Et comment vous est venue l'idée de mettre ce nom-là?
J'étais au commissariat et ils m'ont demandé « Mais vous faites des réunions, qu'est-ce que c'est ?» Alors, le commissaire m'a dit « On dira mission de bienfaisance ». Alors, le soir, nous avions réunion de prière, nous étions que trois ou quatre, et nous avons prié « Seigneur, donne-nous vraiment ce que toi tu veux ». Et j'ouvre la parole de Dieu, « J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer » dans Apocalypse 3. Alors, j'ai dit aux autres, voilà ce que... Et tout le monde était tout de suite d'accord.
C'est devenu le nom. Jean-Peter Schmitt, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions pour notre émission. Merci à tous nos chers téléspectateurs de l'avoir suivi fidèlement. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau dossier entre vous et nous, l'émission qui pose vos questions. À bientôt.